Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jérémy Camus, je suis vice-président à la métropole de Lyon et également président du fonds de dotation de la Cité internationale de la gastronomie. Et c'est à ce titre que je souhaitais vous accueillir ce soir. Vous souhaitez la bienvenue dans ce lieu qui reprend naissance, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette Cité internationale de la gastronomie, qui reprend naissance petit à petit. Et vous faites partie aujourd'hui des testeurs aussi de ce lieu pour l'animer tous les jeudis soirs. Et c'est un cycle qui est aujourd'hui en... Vous êtes les premiers à participer à ce cycle de conférences autour de l'alimentation, de la nutrition, de la justice alimentaire. Bref, tous les sujets qui peuvent toucher aujourd'hui la chaîne alimentaire en quelque sorte. Pourquoi on a décidé de se lancer dans cette démarche-là à la métropole de Lyon, peut-être pour vous expliquer un peu le constat qu'on a fait il y a 2 ans en arrivant à la tête de cette métropole sur la dimension alimentaire, c'est 2 grands constats. Un premier constat, c'est notre faible résilience alimentaire. Et peut-être vous en parlerez ce soir, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la forte dépendance dans la nourriture qui est aujourd'hui consommée par les habitants de la métropole de Lyon, forte dépendance aux importations. Et en particulier, on n'est pas obligé de parler d'importations internationales, hein, c'est que 95% de ce qui est consommé aujourd'hui sur ce territoire provient d'un bassin de production plus loin que 50 km autour de la place Bellecour. Donc dans un périmètre de 50 km autour de la place Bellecour, nous ne produisons que 5% de ce que nous consommons au quotidien dans la métropole. Ce qui nous met dans des difficultés en cas de, par exemple, de pandémie. Vous êtes tous au courant de cette pandémie. En cas de crise, comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui peuvent rapidement être un sujet de sécurité aussi pour la collectivité, en sachant qu'il y a un adage assez répandu aujourd'hui qui dit qu'au bout de 3 jours, on passe assez facilement de l'humanité au chaos, au cas où il n'y ait plus d'approvisionnement suffisant pour nourrir la population. Donc un enjeu fort pour une collectivité de prendre la responsabilité d'augmenter la part de production locale qui est nourricière, c'est-à-dire qui vient nourrir les habitants en premier lieu avant d'aller nourrir d'autres bassins de consommation plus ou moins éloignés. Donc ça c'est le premier axe, c'est comment on améliore notre résilience alimentaire, et je ne vais pas décliner toute la politique publique qu'on est en train de mettre en œuvre à la métropole, mais qui va de la graine, de la semence, en créant par exemple des fermes semencières qui travaillent sur des semences résilientes aussi à une autre crise peut-être encore plus massive qui est la crise écologique, hein, avec des semences qui vont être résilientes au changement climatique qu'on vit aujourd'hui de plein fouet depuis des années, et les agriculteurs en sont les premières victimes aujourd'hui, en particulier le fait que les climats sont de plus en plus arides, de plus en plus chauds l'été, et qui ne permettent plus de cultiver aujourd'hui, dès maintenant, certaines espèces sous nos latitudes. Donc il y a une grosse recherche là de production de semences demain qui nous permettent de continuer à manger des tomates qui sont peut-être plus des tomates mozzarella dont on se délecte tous les étés, mais qui seront en tout cas des tomates fortement nutritives, etc. Et je vous invite à aller faire un petit tour bientôt, printemps, ça peut être très sympa, à Charlie en particulier, sur la commune de Charlie, avec le centre de recherche de botanique appliquée qui œuvre dans ce domaine-là. Et puis on va aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire en tant que collectivité, d'aller aussi proposer aux habitants, et en particulier pour nous, les premiers qu'on traite tous les jours, ce sont les collégiennes et les collégiens, puisque la métropole gère à peu près 80 collèges, 25 000 repas par jour à produire pour ces adolescents. Et donc comment on leur propose une nourriture qui soit elle aussi adaptée au changement climatique, mais qui soit surtout de plus en plus goûteuse, de plus en plus bonne, pour que quand ils passent ce temps de pause méridienne, ils soient heureux d'avoir été à la cantine et qu'ils ne reviennent pas en disant « j'ai encore mal mangé à la cantine ». Et c'est un gros boulot aussi de ce côté-là. Donc voilà. Et puis le deuxième grand axe que vous allez aborder d'ailleurs dans le programme qui est proposé dans le programme Amuse-Bouche, le côté justice alimentaire, avec 2 autres constats assez tragiques. 30% aujourd'hui des métropolitaines et des métropolitains déclarent ne pas se nourrir correctement sur la métropole de Lyon. Et un chiffre encore pire, c'est que 15% d'entre eux déclarent ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole. Donc vous savez que la métropole, peut-être, vous ne savez pas, mais c'est 1 400 000 habitants, je vous laisse faire le rapide calcul, ça représente quantitativement un nombre de personnes assez hallucinant. Et on a pu le voir, le tangibiliser pendant la pandémie, quand vous avez vu ces files d'étudiants dans la rue attendre leur colis alimentaire pour pouvoir se nourrir à leur faim pendant ces 2 dernières années. Donc il y a un vrai aussi sujet autour de la justice alimentaire et de comment rendre accessible cette alimentation de proximité, de qualité, y compris pour les plus précaires. Donc voilà les deux grands axes qu'on essaye de développer depuis maintenant 2 ans. Et ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est que cette Cité internationale de la gastronomie, finalement, incarne ces différents axes qui sont aujourd'hui prioritaires, stratégiques pour notre collectivité, pour notre territoire. Et elle l'incarne à travers les conférences que aujourd'hui l'Université Lyon 2, la Charles Tralim et l'Institut Paul Bocuse nous proposent de venir faire, et on les remercie d'avoir choisi la Cité internationale de la gastronomie pour vous accueillir ce soir et vous proposer ce cycle de conférences. Et comme on l'a dit ensemble, si tout ça fonctionne bien, si vous êtes content du résultat, c'est qu'on puisse continuer à proposer toute cette information, toutes ces expertises, etc. Et merci aux intervenants d'être avec nous ce soir. Je ne vais pas être plus long, je crois que j'ai déjà été très très long et vous avez plein de belles choses à entendre juste après. Je vous prie de m'excuser de devoir vous quitter à 19h. Et en l'occurrence, je crois qu'on a un prochain rendez-vous, on peut peut-être déjà l'annoncer. C'est le... Je me souviens plus, mais j'ai plus de problème, j'ai laissé sur ma... En fait, ça c'est un peu du marketing, quoi. 14 avril, donc 14 avril ici même, vous aurez une autre conférence qui va vous être proposée. Et on espère que vous serez à nouveau avec nous, et sinon, transmettez le message à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Le lieu est aussi disponible en termes de visite, peut-être pas longtemps après cette conférence, pour éviter aux personnes de devoir quitter trop tard le bâtiment, mais vous pouvez vous naviguer aussi dans cet étage-là pour découvrir la cité. Merci à vous, et puis bonne conférence en tous les cas. Merci.
Bonsoir, je vais aussi dire 2-3 mots, mais je vais essayer de pas être long non plus pour pas déborder trop et laisser la parole à Estelle, parce que c'est quand même les invités du jour qu'on a surtout envie d'entendre. Simplement pour rappeler le contexte, alors tout d'abord pour remercier bien sûr la métropole et notamment Jérémy Camus et Mathieu Thénos de nous accueillir ici. Alors, il nous a remercié d'avoir choisi le lieu, mais je pense que c'est aussi à nous de les remercier de nous accueillir, parce que c'est une super opportunité, et en plus on est vraiment dans un endroit extraordinaire. Donc merci beaucoup. Juste en 3 mots, enfin quelques mots, qu'est-ce que c'est que la chaire Tralim, cette chaire Tralim pour transition alimentaire? L'idée c'était d'associer nos deux institutions, le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, où moi je travaille, donc je suis Maxime Michaud, je crois que je ne me suis pas présenté, donc je suis responsable de l'axe de recherche en sciences sociales au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Donc l'Institut Paul Bocuse et l'Université Lumière Lyon 2 ont eu envie de s'associer, d'associer leurs expertises complémentaires pour monter cette chaire autour des transitions alimentaires. Le but de la chaire, c'est de faire de la recherche, mener des actions de formation, mais aussi des actions de valorisation et de transmission de la connaissance, ainsi que des actions d'innovation et d'accompagnement. Autour de quel thème? Les transitions alimentaires. Pourquoi les transitions alimentaires? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions ou de recommandations ou de messages et de réalités aussi, de faits, qui nous invitent à faire évoluer nos façons de manger, que ce soit pour des raisons sanitaires, des raisons environnementales, des raisons de bien-être, des raisons culturelles, sociales. Il y a plein de raisons différentes. Et notre but, c'était d'essayer de mieux comprendre, tout d'abord, qu'est-ce que sont les transitions alimentaires. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on doit faire évoluer nos façons de manger. Et on peut remonter à minima jusqu'au néolithique et probablement avant. Il y a eu des grands changements dans nos façons de manger. Donc essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand des groupes humains veulent changer leur mode alimentaire, soit parce qu'ils y sont contraints, soit parce qu'ils le veulent, et comment, à partir de ces connaissances, essayer d'accompagner, de mieux comprendre les transitions qui sont en cours maintenant, et d'essayer d'aller dans le sens le plus vertueux possible. Donc ça nous permet de produire des connaissances qui peuvent servir d'abord à nos étudiants respectifs de l'Institut Paul Bocuse et de l'Université Lumière Lyon 2, aussi à la population générale via des actions de valorisation, mais aussi notre but c'est d'accompagner des acteurs du monde socio-économique qui auraient envie aussi de se faire aider par les expertises qu'on peut mobiliser, soit en interne, enfin nos chercheurs que l'on a, nos enseignants-chercheurs, les étudiants, bien sûr, qui sont une source d'énergie et de production de connaissances absolument incroyable, mais aussi par nos réseaux beaucoup plus larges, réseaux académiques. La présence d'Estelle Masson aujourd'hui témoigne aussi de ces réseaux qu'on peut éventuellement mobiliser, et réseaux socio-économiques. On travaille tous avec des associations, avec des gens de terrain qui peuvent nous aider et nous accompagner. Donc voilà pour dire en quelques mots ce que c'est que cette chaire Tralim. Ce soir, c'est le premier de nos amuse-bouches. Donc c'est-à-dire des moments où on va essayer de montrer un peu une partie de nos réflexions. Ces amuse-bouches, on les a pensées pour le moment, on en a prévu 4 d'ici la fin de l'année par axe, puisqu'on a 4 axes de recherche dans la chaire. Alors j'ai repris le petit livret parce que je les connais pas par cœur. L'axe dynamique alimentaire et diversité des territoires, éthique et égalité d'accès à une alimentation de qualité, gouvernance, acteurs et politique alimentaire. Et pour l'axe de ce soir, pratique alimentaire et représentation associée à l'alimentation. Donc je remercie les responsables d'axe aussi qui sont investis depuis le début. Et pour ce soir, donc Nikos Kalampalikis qui est responsable de cet axe, qui a invité Estelle et qui a organisé ce tout premier amuse-bouche. Voilà, donc il se fera en 2 temps. Un premier temps avec une présentation d'Estelle Masson en dialogue avec Nikos, et puis un deuxième temps plus en format table ronde. Voilà, où on élargit un petit peu l'audience. Merci à tous. Et puis, si vous avez des questions sur la chaire, il y a les petites plaquettes. Il y a aussi le magazine Rush de l'Université Lyon 2 qui a été consacré, c'est pas le dernier numéro, mais celui-là a été consacré justement aux transitions alimentaires. Et puis, on peut échanger aussi à l'issue de la mousse-bouche si vous le souhaitez.
Merci beaucoup, Maxime. Je pense que on a surtout à laisser effectivement la parole à Estelle Masson. Donc moi non plus, je ne vais pas être long. Je m'associe naturellement aux remerciements à la Cité internationale de la gastronomie pour ce bel endroit, ce magnifique cadre, en tout cas pour démarrer les amuse-bouches. Dire que je suis plus que ravi que Estelle Masson soit là, parce que Estelle a consacré depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années au moins, ses travaux sur l'alimentation, de nombreuses publications, une conception très large et très engagée aussi de l'alimentation en rapport avec la culture, en rapport avec les politiques publiques, en rapport avec les habitudes alimentaires. Et voilà, je suis vraiment ravi que Estelle ait accepté et pu en tout cas se déplacer pour venir ici. Ça tombe extrêmement bien. Estelle Masson, s'il faut la présenter, elle a fait sa thèse de doctorat à un endroit qu'on connaît bien, à l'EHESS, avec Denis Jodelet et Serge Moscovici, sur l'alimentation. Elle a été jusqu'à l'année passée maîtresse de conférence du cours en psychologie sociale à l'Université de Brest, jusqu'à l'année passée, puisqu'elle a muté à la Sorbonne, nouvelle Sorbonne. Voilà. Dire simplement aussi, rajouter à ce qui a été dit, que moi je suis particulièrement ravi aussi de cette démarche-là de la chaire Tralim, parce qu'elle s'inscrit dans quelque chose qu'on voit très largement en sciences humaines et sociales depuis une bonne quinzaine d'années, sinon ce n'est pas une vingtaine d'années, à savoir qu'on travaille de plus en plus sur des objets d'études qu'on appelle des objets communs. Il me semble que l'alimentation, c'est un objet commun par excellence, et notamment ceci se confirme dans la période qu'on vit, que l'on pourrait qualifier post-pandémie. Donc je suis ravi du coup de voir, de constater que les intérêts autour de cette chaire-là rencontrent du coup les intérêts venant de différentes disciplines en sciences humaines et sociales au sein de Lyon 2. Et surtout qu'elle rencontre aussi ces intérêts-là des acteurs du monde associatif de la cité, de la ville de Lyon. Et naturellement, l'association avec l'Institut Paul Bocuse est absolument fondamentale. Donc, je vais passer la parole à Estelle, sans trop tarder. Et de toute manière, on aura l'occasion de discuter de cela après avec le public et entre nous.
Je te remercie beaucoup, Nikos. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous de m'avoir invité, de m'accueillir aujourd'hui ici, dans ce lieu qui est absolument somptueux. C'est une lourde tâche qui m'incombe de commencer ces amuse-bouches, parce que tout le monde sait que pour lutter contre la néophobie, il faut, donc c'est cette tendance à pas vouloir goûter quelque chose de nouveau, il faut une exposition du sujet régulière à la chose en question à manger, mais que par contre, pour se dégoûter de quelque chose, il suffit d'une expérience funeste. Donc j'espère que je continuerai, enfin qu'après m'avoir entendu, vous continuerez à avoir appétit pour ces jolies amuse-bouches qui sont prévues pour toute l'année en fait. Effectivement, comme le disait Nico, c'est une approche plus anthropologique, dans la lignée un peu des travaux qu'ont développés Denis Jeudelet et Serge Moscovici. Donc c'est de la psychologie sociale, mais avec une vision plus anthropologique. Et comme c'est moi qui commence ce cycle de conférences, eh ben je tenais à vous rappeler quelques fondamentaux du rapport à l'alimentation, du rapport que nous entretenons, nous, aujourd'hui, en tant que mangeurs, à l'alimentation et ces aspects cruciaux et vraiment intrinsèques à ce qui nous lie à ce que nous mangeons, sont à avoir toujours en tête dès lors que l'on souhaite pousser des peuples, des groupes vers des transitions alimentaires. Parce que ça ne relève pas que d'une décision, et même quand c'est imposé de l'extérieur par des raisons climatiques, politiques, économiques, il n'est pas aussi simple que cela de changer et de faire de changer les pratiques alimentaires et de faire renoncer à des peuples, des sociétés, des cultures, à leur façon de se nourrir habituellement. Il y a un chercheur très, très intéressant qui avait mis en évidence les plats totems, donc ces plats emblématiques que nous mangeons. Alors à Lyon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on mange dans les bouchons lyonnais ? En Alsace, je suis alsacienne, ça va être la choucroute, etc. Mais ces plats emblématiques perdurent. Et on se rend compte qu'au moment de l'émigration, donc quand des peuples quittent le bassin où ils habitent habituellement, le terroir où ils habitent, la culture où ils ont grandi, où leurs ancêtres sont enterrés, et bien quand ils migrent vers ailleurs, ils perdent le plus souvent leur langue, la connaissance de leur langue, que leur pratique, enfin que ces plats totems qui restent. Donc l'identité, le lien entre l'identité et ce qu'on mange est quelque chose de fondamental et de très important. Alors, pour commencer au début du début, l'alimentation est typiquement ce que Marcel Mauss appelle un fait social total. C'est-à-dire un fait qui va engager la société dans sa totalité, que ce soit dans ses dimensions politiques, économiques, juridiques, religieuses, morales, esthétiques, etc. Vous n'avez pas besoin de réfléchir très longtemps pour trouver des exemples. Par exemple, au niveau économique, ça peut être simplement le prix des aliments qui va définir leur accessibilité ou non pour différentes populations. La politique, ça dépend des périodes, mais qui a le droit de manger quoi ? Comment participer par exemple au banquet en Grèce, donc pouvoir consommer l'objet du sacrifice affirmait aussi une position sociale et cette appartenance aux politiques que, par exemple, les métèques ne pouvaient pas avoir le même statut et la même position. Au niveau juridique, c'est toute la législation Par exemple, actuellement, on tente de réintroduire les insectes comme nouvelle source de protéines dans l'alimentation humaine. Avant de pouvoir le faire, il faut qu'il y ait toute une législation qui permette et qui autorise la commercialisation de ces produits. Le religieux, l'exemple le plus simple, ce sont les interdits alimentaires pour raisons religieuses, la morale, l'esthétique, avec, comment on appelle ça, du porn food. C'est cette manie que beaucoup d'entre nous ont de photographier ce qu'ils sont en train de manger, de l'esthétiser, ou au contraire, de partir dans l'excès ou la dérision. Et donc, l'alimentation englobe et sollicite tous ces domaines. Mais il y a quelque chose de plus important encore dans le rapport de l'individu à son alimentation. Je vais me mettre là parce que je ne vois pas mes diapos autrement. Je ne peux plus vous voir. Autre chose et qui était très bien dit dans l'aphorisme, si je me souviens bien, c'est le 4e aphorisme de Brillat-Savarin, en introduction ou en prologue à la physiologie du goût, où il disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». En écrivant cela, Brillat-Savarin établissait un lien entre identité et alimentation. Pourquoi est-ce que ce lien ne nous semble pas fondamentalement étonnant? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve affirmé dans d'autres cultures également? En Allemagne, vous avez une formule qui dit à peu près la même chose, « man ist, was man ist ». Donc on est ce qu'on mange, exactement de la même manière. C'est tout simplement parce que ça renvoie au principe d'incorporation, principe d'incorporation qu'a fort joliment décrit Claude Fischler dans L'Omnivore. Et selon ce principe d'incorporation, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons au sens littéral du terme, c'est-à-dire que par la digestion, on va transformer tout ce qu'on a consommé en notre propre chair. Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer de vous souvenir, vos parents vous ont peut-être dit, votre poids de naissance, vous étiez beau bébé, c'était 4,2 kg, des petits bébés 2,2 kg, 3, 4, enfin. Et vous voyez, c'est tout petit. Prenez votre poids actuel, soustrayez ces quelques kilos de naissance. Tout le reste de votre matière, c'est ce que vous avez mangé. Donc c'est on devient vraiment ce qu'on mange au sens littéral, dans la mesure où on se construit à partir de notre alimentation, des nourritures qu'on consomme. Mais, et c'est ce qui nous intéresse plus en psychologie sociale, on devient également ce qu'on mange au sens figuré. Du moins, c'est la représentation que l'on se fait de ce rapport à l'alimentation. On ne va pas seulement ingérer des aliments, leur qualité nutritive, mais on va aussi ingérer l'ensemble des caractéristiques qui sont associées à cet aliment. Les principes d'évitement alimentaire ou d'interdit alimentaire sont très régulièrement, enfin sont essentiellement liés à ce deuxième niveau du processus d'incorporation. Pourquoi ne faut-il pas manger de porc dans différentes religions? Alors il y a toujours une explication sanitaire qui planerait quelque part, qui dirait le porc est une viande qui se conserve mal, et donc vu que ces religions se sont développées dans des endroits où il fait plutôt chaud, Alors, c'est pas possible de les conserver, donc c'est par hygiène, par mesure sanitaire en quelque sorte. Mais c'est pas vrai, il y a d'autres populations sous les mêmes latitudes qui consomment les mêmes produits et qui ont survécu au fil des décennies et des siècles. Non, si on ne peut pas consommer de porc, notamment lorsque l'on est juif, c'est parce que le porc est considéré comme un animal impur. Pourquoi est-ce qu'il est impur ? Parce qu'il ne correspond pas à la taxonomie de ce qui est pur. Un animal, il doit être, enfin, s'il est ruminant, il doit avoir des sabots pleins. Et puis, par contre, autrement, s'il a des sabots fendus, il est herbivore et il n'est pas ruminant. Le porc a cette particularité d'avoir un sabot fendu et de ne pas être ruminant. Donc, il ne correspond pas à la taxonomie. Il ne colle pas au principe. Et c'est de ce fait-là qu'il est impur. Et ingérer quelque chose d'impur, et c'est véritablement là la propriété symbolique associée à l'animal. Donc, incorporer cette propriété symbolique rend soi-même impur. Et c'est des choses que l'on retrouve très, très, très régulièrement et qu'on voit des applications. Alors là, je vous les ai cherchées dans Lévis Brûle. Donc 1910, les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Vous voyez que tous les titres sont bien marqués par l'époque où ces ouvrages ont été écrits. On ne parle plus aujourd'hui de sociétés inférieures, ni même de primitifs, ni rien. Mais, donc 1910, que relève Lévi-Brûle ? Eh bien, il remarque qu'en Nouvelle-Zélande, on faisait manger du corimaco, alors c'est le petit oiseau qui est là-bas en haut. Et ce corimaco, c'est un petit oiseau qui chante merveilleusement bien. Et on faisait manger ce petit oiseau qui chante merveilleusement bien aux enfants destinés à devenir chefs. Pourquoi est-ce qu'on leur faisait manger ce petit oiseau ? Eh bien, parce que était attribué ou était relié à lui cette idée de chant merveilleux, de chant mélodieux et une qualité attendue d'un futur chef, c'est d'être un bon orateur. Donc c'est bien encore une propriété symbolique associée à l'aliment qui va faire qu'on va le donner à consommer à des êtres particuliers pour qu'ils récupèrent cette propriété symbolique. Vous avez d'autres exemples, les habitants du nord-est de l'Inde qui pensaient que manger des yeux de chouette permettait d'y voir clair la nuit. Ben, pourquoi ? C'est un animal nocturne, les yeux, la capacité à voir, etc., etc. Mais il y a 100 000 exemples différents. Il y a des sociétés africaines où on interdit aux femmes enceintes de consommer des écureuils, par exemple. Pourquoi ? Parce que les écureuils sont des petits animaux farouches. Et ben, si la femme consomme un écureuil, elle va transmettre à l'enfant qu'elle porte ce caractère farouche et il ne voudra pas venir au monde et il restera caché, ce qui conduira à un accouchement particulièrement compliqué. Donc il ne faut pas qu'elle en mange. Etc., etc. Donc, il y a un autre exemple sur les habits pauvres, mais il y en a 100 000 des exemples dans le genre. Ce qui est intéressant, enfin, avant de vous montrer la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ben oui, tout ça, ça fonctionne bien pour ces peuplades étudiées par Lévi-Brûle sur lesquels a écrit Lévi-Brûle, ces peuples primitifs qui ne possèdent pas la capacité à raisonner de façon cartésienne. Donc effectivement, ce seraient des idées bizarres de peuples primitifs. Et deux chercheurs américains, psychologues sociaux, expérimentalistes, donc des vrais scientifiques, ont essayé de voir si ce principe d'incorporation, et plus encore, si cet aphorisme de Brillat Savarin, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », fonctionne également dans nos modes de pensée occidentaux. Et donc, Paul Rosin et Carol Nemeroff vont inventer un protocole expérimental où ils vont donner à lire à deux groupes d'étudiants un texte décrivant les habitants des îles Chandor, les Chandorans. Alors, cherchez pas les îles Chandor sur un planisphère, elles n'existent pas, elles sont juste nées dans l'imagination de Paul Rosin. Et donc, ce texte présente toutes les caractéristiques de ce peuple, comment il vit, de quoi il se nourrit, comment se répartissent les tâches dans les foyers, comment sont élevés les enfants, quelles sont les techniques et les pratiques agricoles qu'ils ont, etc. Mais comme ils sont expérimentalistes, ils vont différencier les textes juste sur un point. Et ce point en question concerne la tortue de mer et le sanglier. Donc, dans une des conditions expérimentales, ils vont décrire les Chandorans comme étant des chasseurs de tortues de mer. Et dans ces tortues de mer, ils vont les chasser pour les manger. Mais ces Chandorans sont aussi chasseurs de sangliers. Et ils vont chasser les sangliers pour récupérer leurs défenses, pour en faire des parures rituelles. Deuxième condition expérimentale, donc le texte que vont lire un autre groupe d'étudiants. Et bien dans cet autre texte, ça va être inversé. Les Chandorans seront toujours chasseurs de tortues de mer et de sangliers. Mais là, ils ne mangeront plus la tortue de mer. Ils chasseront la tortue de mer pour récupérer sa carapace et en faire un objet, enfin des objets rituels. Et par contre, ils vont chasser le sanglier pour manger la chair du sanglier. Vous vous souvenez, on est ce qu'on mange, les caractéristiques symboliques associées aux aliments. Qu'est-ce qu'on devrait trouver ? Et les traits physiques, effectivement, de ces personnes. Ils vont donc proposer aux deux groupes d'étudiants de décrire, au moyen d'une échelle bipolaire, un type différenciateur d'Osgood, de décrire un Chandoran typique. Et d'un côté de l'échelle, vous avez des traits qui sont plus caractéristiques du sanglier, comme par exemple poilu. Et de l'autre côté, des traits qui sont plus caractéristiques de la tortue de mer, à savoir glabre. Et quelque chose qui, dans le mode de déplacement des animaux en question, ben, ils vont prendre bon nageur d'un côté, bon coureur de l'autre côté. Donc à chaque fois, et ils vont demander aux étudiants de cocher une case plus ou moins proche, enfin... C'est une échelle, donc de dire si elle est plutôt, si le Chandoran en question est plutôt bon coureur ou plutôt bon nageur. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, qu'effectivement, comme vous le disiez, on peut établir une corrélation entre comment on se représente ce Chandoran, alors que la seule information différente qu'on avait sur lui, c'est que dans un cas, il mangeait de la tortue et dans l'autre cas, il mangeait du sanglier. Mais ça change tout de manger de la tortue ou de manger dans un sanglier. Parce que comment on va se l'imaginer, quand il mange de la tortue, il va plutôt être décrit comme flegmatique, vivant longtemps, étant bon nageur, étant pacifique, ayant plutôt les yeux clairs, etc., etc. Dès que vous leur avez dit que bien qu'ils chassent la tortue de mer, mais qu'ils ne la mangent pas, mais qu'ils mangent du sanglier, eh bien, votre chandoran, il sera décrit comme étant plutôt irritable, qu'il sera poilu, il sera bon coureur, il sera trapu, il sera agressif, etc., etc. Donc, vous voyez, ces principes d'incorporation et donc ce deuxième sens où c'est au sens figuré qu'on devient ce qu'on mange, n'est pas une spécificité de peuplade imaginaire, lointaine, arriérée, etc., etc. C'est quelque chose que nous partageons tous et que nous avons en esprit et que nous ne pouvons pas nous empêcher de mobiliser. C'est-à-dire que nous établissons toujours une sorte de rapport entre l'identité du mangeur et l'alimentation qu'il a. Et ce lien entre identité et alimentation, eh ben ça a souvent été utilisé pour discriminer des peuples, des collectivités, des membres de sociétés différentes. Alors vous avez, et c'est toujours en termes injurieux, vous rencontrerez par exemple jamais quelqu'un qui vous dira « Bonjour, moi je suis un Esquimau ». L'Esquimau vous dira « Bonjour, je suis un Inuit ». Pourquoi ? Parce que « Inuit », ça veut dire « peuple » ou « homme » ou enfin, ça, comme vous présenteriez. Tandis que « Esquimau », alors il y a deux... L'étymologie n'est pas fixée encore, ça tourne beaucoup. Il y a une étymologie qui semble plus fiable, qui se proviendrait du montagnais, donc c'est une ethnie d'Amérindiens un peu plus loin, et qui voudrait dire qui parle une autre langue. Mais l'étymologie la plus retenue de façon usuelle est que Eskimo voudrait dire dans une autre langue d'Amérindien mangeur de viande crue. Donc là encore, c'est on va prendre un trait particulier, et que ce soit l'alimentation ou la langue, peu importe, enfin les travaux de Calvo montrent que c'est les deux choses qui résistent le plus longtemps, mais que l'alimentation résiste encore plus longtemps que la langue. Donc on va prendre une pratique que cet autre a et que nous n'avons pas, et comme nous n'avons pas cette pratique et que l'autre la pratique, eh ben on va trouver ça abominable. Ça ne relève pas de l'humain de se nourrir de cette façon-là. Ce sont les animaux, les sauvages, qui mangent de cette façon-là. Et c'est exactement au même titre que nous sommes nous-mêmes désignés de façon péjorative par les Anglais comme étant des frogs, c'est-à-dire des grenouilles. Pourquoi ? Parce que, il y a une cinquantaine d'années, vous trouviez encore sur les cartes des restaurants, de la mesure, enfin, vous alliez manger dans un bon restaurant, dans les entrées, vous aviez des cuisses de grenouilles. Ça se raréfie d'ailleurs sur les cartes sur les menus, mais on en trouve encore beaucoup. Mais si on s'éloigne de Lyon, on en trouve plus systématiquement. Alors que comme les escargots, ils commencent à dégringoler un peu, mais c'était vraiment des plats classiques. Mais seulement les Anglais, ils ne leur étaient jamais venus à l'idée de manger un batracien. Et pouvoir imaginer que des gens mangent des batraciens leur semblait absolument une idée curieuse et ne relevant pas d'un peuple civilisé. En échange de quoi, les Français appelaient les Anglais les roast beef, ça date du XVIIIe siècle, où cette façon de faire rôtir la viande de bœuf des Anglais semblait extrêmement étrange aux Français qui faisaient encore à l'époque largement bouillir la viande de bœuf. Donc c'était quasiment manger de la viande crue. Ça remonte au niveau des Inuits. On ne fait pas comme ça, ne pas faire. Et on est toujours le vrai homme, le vrai civilisé, mais peu importe de quelle culture, de quelle civilisation on vienne, mais chaque fois un membre d'une culture et d'une civilisation se considérera lui-même comme étant le civilisé, le vrai homme et la personne incarnant la façon dont il est bon de se conduire. Pareil pour les Italiens baptisés macaroni. Ça aussi, c'est un terme qui avait un peu disparu, qui est revenu à la mode, pas à la mode, mais qui est redevenu plus entendu il y a 2 ans suite à une affaire où est-ce que sel macaroni était une insulte raciste ou pas. Vous vous souvenez peut-être de la polémique ou non. Mais bref, c'est aussi une façon dont étaient dénommés, désignés les Italiens au moment des migrations italiennes, et ils arrivaient en France, dans un souvent dans, ben, par exemple, pas très loin d'ici, enfin 200 kilomètres à Clermont-Ferrand, ce sont principalement des mangeurs de pommes de terre. Une immigration italienne qui vient travailler chez Michelin et qui se nourrit de macaroni, ben c'est pas normal. Mais en échange de quoi, les petits Italiens répondaient aux bois séjouriens à côté de Clermont que eux, c'était des patates pourries. Mais c'est vraiment c'est la désignation de l'autre, c'est l'avilissement de l'autre en fonction de la façon dont il se nourrit. Et donc, ce qu'il faut rappeler également, c'est que ce qui est jugé mangeable, et vous voyez dans tous ces cas, pour la viande crue, les grenouilles, le roast beef, les macaronis, toutes ces choses sont des choses mangeables dans un ici, maintenant, quelque part. Mais seulement, il ne l'est pas pour tout le monde. Et là encore, on voit l'importance de la culture, parce que ce qui est jugé comestible, ce qui est jugé mangeable, ce qui est intéressant et plaisant de manger pour les membres d'une culture, eh ben, c'est simplement une toute petite part de l'ensemble de ce qui pourrait se manger. Donc c'est aussi où il faut insister sur ces questions-là, c'est que les répertoires alimentaires, les répertoires culinaires des peuples sont très déterminés par la culture des membres de ces peuples. Mais il n'y a pas que les répertoires alimentaires qui sont déterminés de la sorte, c'est aussi notre rapport à l'alimentation qui est marqué par la culture à laquelle on appartient. Et c'est ce qu'on avait essayé de voir il y a quelques années déjà avec Claude Fischler dans une recherche qui portait sur la culture et le rapport à l'alimentation. C'était une recherche transculturelle à laquelle a participé environ 7000 personnes qu'on a menée en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Italie. Et à titre exploratoire, l'Inde, mais on n'a pas poursuivi pour toutes les phases de l'enquête. Donc juste en se limitant aux pays occidentaux, il y en avait 6. Et où on se posait la question de savoir si à une époque où on parle de McDonaldisation des mœurs alimentaires, à une époque où on déplore l'homogénéisation des goûts alimentaires également. Est-ce qu'il existait encore des différences au niveau du rapport à l'alimentation? Et aussi dans un contexte, enfin cette étude, on l'avait menée dans un contexte un peu particulier. C'était celui pas de l'épidémie ou la pandémie de Covid, mais c'est le contexte de ce qu'on a appelé un temps, et que nous on n'en parle plus en ces termes aujourd'hui, mais l'épidémie d'obésité. Et où il y a eu tous ces premiers plans nationaux nutrition santé, qui eux aussi étaient quelque part des incitations à des formes de transition alimentaire, où il fallait, enfin c'est peut-être les premières transitions alimentaires fortes poussées par la France, enfin on pourrait peut-être dire Parmentier avant, qui voulait introduire la pomme de terre auprès de Français qui ne voulaient pas en manger du temps de Parmentier. Mais là où c'est vraiment avec une justification forte qui est la santé des Français. Et juste si on étudie, enfin l'idée c'était qu'il fallait rééduquer les Français pour leur apprendre à bien manger. Et si on regarde un peu historiquement où il y a eu le plus d'éducation nutritionnelle réalisée historiquement, ben c'est les États-Unis. À la fin du 19e siècle, il y avait déjà des formes d'éducation nutritionnelle qui étaient menées, qui étaient réalisées. Et pourtant, c'est dans ce pays-là qu'on trouvait les taux qu'on trouve toujours, plus exclusivement, mais bon, mais qu'on trouve des taux de prévalence d'obésité bien plus importants qu'on en trouve en Europe. Donc on se disait, c'est peut-être pas le meilleur moment. Si je dépasse le temps, il faut me dire. Oui, ça me dire un peu avant. Et donc on avait essayé, enfin on avait testé tout plein d'échantillons différents. Et dans un des échantillons, on avait pris des échantillons stratifiés pour voir si au sein d'un même pays, le rapport à l'alimentation était particulier, et notamment sur des questions ayant trait à la médecine. Donc est-ce qu'il y avait un savoir nutritionnel général, transposable, véritable, etc. Et regardez par exemple sur la question de la supplémentation vitaminique de l'alimentation. Vous avez donc ceux qui déclarent ne jamais en prendre. On demandait aux gens simplement, est-ce que vous prenez des vitamines tous les jours, de temps en temps, en cure, jamais? Et là, c'est juste les résultats avec jamais et tous les jours. Donc, juste les réponses extrêmes. Aux États-Unis, donc il y a les médecins d'un côté, de l'autre côté, les profanes, ce sont les enseignants et la population tout venante qui sont rassemblés sous le terme de profanes. Aux États-Unis, on ne trouve personne qui nous réponde qui ne prend jamais de vitamines. Par contre, on trouve quand même pas mal de personnes qui déclarent en consommer tous les jours. Vous prenez la France, en France, vous trouvez quelques profanes, enfin quelques vous et moi, qui déclarent en manger tous les jours, mais vraiment tous les jours, et par contre une grande majorité qui n'en mange jamais. Après, il y a des personnes qui en prennent en cours, etc. Mais ce qui est plus frappant, alors déjà on peut se dire, la culture elle détermine, mais ce qui est frappant, c'est que les médecins répondent exactement de la même manière que les profanes. Donc il n'y a pas, la culture prédomine sur le savoir scientifique à l'égard de la nécessité ou non d'une supplémentation vitaminique de l'alimentation quotidienne. Donc, il y a plein d'autres résultats, mais celui-là, je le trouve très éclairant sur ce poids de la culture. Et oui. Ah, ou eux-mêmes se... Ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne les ai pas interrogés là-dessus. Mais j'aurais tendance à vous répondre non, parce que c'est un peu le même principe que les risques liés au tabac et le nombre de médecins qui fument. Donc, c'est... Et quelque part, il y a toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés en fin de... Mais je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de données là-dessus. Mais à titre personnel, je dirais non. Mais ça ne s'appuie sur rien. Donc, voilà. On les interrogeait aussi sur qu'est-ce que bien manger pour vous. Qu'est-ce que répond un Italien quand on lui demande qu'est-ce que c'est bien manger pour vous? Ben, si vous arrivez à lire l'italien, je vous laisse déchiffrer un peu. Mais globalement, les Italiens y répondent en termes de produits. Et bien manger, c'est manger de bons produits. Vous posez la même question à des Américains. Qu'est-ce que c'est bien manger pour vous? Étonnamment, là encore, les Américains vont vous répondre en termes de contrôle des apports nutritionnels. On s'y attendrait pas. Enfin, théoriquement, c'est après 2000 l'étude, c'est eux qui ont des taux de prévalence d'obésité absolument, enfin, trois fois plus élevés qu'en France à l'époque. Et ils répondent en termes d'apports nutritionnels sur la variété, sur les catégories d'aliments, sur la régularité des prises, sur des choses très intéressantes aussi. Souvenez les Italiens, ils parlent d'aliments. Les Américains, ils vont décomposer l'aliment de façon beaucoup plus fine. Ça va être des nutriments, des vitamines, des minéraux, ce qui est étonnant. Donc quelque part, ils ne mangent pas la même chose. Les Italiens, ils mangent des légumes, des fruits, de la viande. Les Américains vont manger des nutriments. Les Français, qu'est-ce qu'ils mangent? Eux, ils mangent ni nutriments, ni aliments. Les hommes français, ben, ils font essentiellement un repas, mais ils mangent des plats. Des plats. Et c'est pas tellement ce qu'ils mangent qui les caractérise. Ce qui les caractérise dans leur définition de ce qu'est le bien manger. Mais c'est bien plutôt le fait que pour bien manger, pour qu'on ait le sentiment d'avoir bien mangé, eh ben, il faut manger avec d'autres. Il faut partager un repas, il faut être avec d'autres, et ce partage du repas est source de plaisir physique, le goût des aliments, mais aussi de plaisirs sociaux, être avec d'autres, partager avec d'autres. Enfin, c'est toute l'idée de la commensalité. Exactement. Il n'y a pas une recette et il n'y a pas un aliment dans ce qui est placé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un rituel familial. Mais par contre, on est décrit dedans que le vin, il faut l'humer. Mais, donc c'est vraiment la pratique d'un rituel. Et avec une description très affinée. Ça commence au moment de l'approvisionnement. La séquence des repas, l'apéritif, les trucs. Donc, oui, non, mais c'est... La muse ne bouge pas textuellement. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, la description. 5 minutes, ça va m'aller. Donc, on voit bien que d'un côté, on a un modèle individualiste avec une approche nutritionnelle où ce qui est revendiqué, c'est la liberté de choisir pour pouvoir se construire une alimentation sur mesure. Mais simplement, eh ben, si vous voulez choisir, eh ben, il faut faire des choix éclairés. Enfin, ça implique une responsabilité aussi quand vous choisissez. Si vous êtes responsable de votre propre alimentation. Et comme très souvent, on ne fait pas les bons choix, parce qu'il est tellement simple de faire les mauvais choix, enfin de se laisser aller à ce qui saute du frigo tout seul, à ce qui est super alléchant, à ce qui est gras, goûteux, sucré, enfin tout saturé en exhausteur de goût, le gras, le sucre. Enfin, c'est pour ça que c'est bon les chips, les gâteaux et voilà. Et donc, où il y a une culpabilité terrible. Mais vous avez un individu autonome qui peut ou qui prétend vouloir ou pouvoir gouverner son alimentation tout seul. Et à côté de ça, vous avez un modèle qui est plus français, pour partie italien aussi, où c'est pas du tout l'autonomie qui gouverne les choses, mais c'est les normes, les us et coutumes qui viennent gouverner, appuyer ce que font les gens. Ce qui est important, c'est la commensalité, c'est de manger des bons plats, donc c'est une approche culinaire et non pas nutritionnelle, c'est le plaisir, et c'est cette tradition et ces usages qui vont encadrer et gouverner les prises alimentaires. Cinq minutes, tu m'as dit. Que tu m'avais dit 2 minutes. Oui. Et si, bon, on observe, là, c'est un raccourci un peu rapide, mais on observe depuis pas mal de, enfin, plusieurs décennies, que le rapport à notre alimentation, il se tend un peu. C'est cette idée, depuis la crise de la vache folle, où il nous a été révélé les modes de production des animaux, les risques de contamination par l'ESB, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, toutes les émissions de télé qui dénoncent à chaque fois des scandales absolument abominables, où tout l'agroalimentaire et l'industrialisation de la production des aliments a été... C'est comme une sorte de boîte noire, parce que l'individu, le mangeur, il a 5 chances sur 100 de manger quelque chose qui est produit à côté chez vous. Donc il ne voit plus ce qui est produit. Il n'a plus accès au produit lui-même. Et donc ça devient un lieu de crainte, où on redoute qu'il se passe des choses épouvantables. Et chaque fois que quelque chose sort de cette boîte noire, c'est effectivement épouvantable. Enfin, c'est les documentaires de L214 sur le broyage des poussins, c'est les lasagnes au poney, non pas au poney, au cheval. Donc vous voyez, chaque fois, ce qui est révélé, c'est pas que ça fonctionne bien, qu'il y a des industriels vertueux qui réduisent par exemple leurs recettes en sel, qui... Non, c'est tout ce qui va pas qui ressort à chaque fois. Et donc il y a une sorte de mise à l'écart de tout ça. Et aussi, il y a dans notre société indéniablement toute une médicalisation ou une nutritionnalisation de l'alimentation. Et vous avez toute une série de tentatives, enfin de régimes et d'alimentation particulières qui apparaissent, mais qui peuvent être compris aussi comme des volonté individuelle de mangeur de se réapproprier ce qu'il mange. Et de se réapproprier ce qu'il mange au travers de valeurs, de se construire une alimentation sur mesure qui correspondrait à des valeurs qu'ils ont. Du genre, je sais pas, les valeurs esthétiques, il faut être mince, voilà, on va maigrir, il faut être en bonne santé, voilà, on va se construire une diète donnant, en permettant une santé plus loin, mais après il y a aussi le gluten typique du rejet de l'alimentation moderne. Si vous regardez qui se déclare le plus intolérant au gluten, le bio, être vegan, être végétarien, être locavore, être instinctiviste, etc., etc. Et toutes ces revendications de régime alimentaire particulier, individualisé, est-ce que c'est pas quelque chose qui va développer une forme d'identité individuelle, de revendication d'identité individuelle? Moi je suis bio, moi je suis contre l'empoisonnement de la terre, moi je suis végane, je suis contre la maltraitance des animaux, etc., etc., etc. Mais si on est dans un tel contexte, eh ben, est-ce que Brillat Savarin a encore raison? Est-ce qu'il s'agit encore, quand on demande à quelqu'un, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, est-ce qu'on a encore accès à cette dimension collective, culturelle, sociale, de l'individu qu'englobait l'aphorisme au départ? Ou est-ce qu'on n'a pas que juste des atomes d'individus ayant des volontés particulières? Et puis on discute, je vous montre juste ça et puis on discutera des choses avec des cas concrets après. Et en France en plus, il y a une intolérance très très forte à la revendication d'un régime particulier. On demandait la cessure des échantillons représentatifs nationaux, donc 950 pour la France, 1500 pour les États-Unis. On demandait aux personnes, petite expérience imaginaire, imaginez que vous invitez des amis à dîner et un de vos amis vous prévient qu'il est, alors il n'aime pas le poulet, vous dites super, je suis très heureux de venir dîner, mais sachez, je n'aime pas le poulet. Est-ce qu'on trouve ça normal, tout à fait normal, plutôt pas normal ou pas normal du tout? Deuxième question, deuxième possibilité, il vous prévient qu'il est végétarien. Là encore, est-ce qu'on trouve ça normal ou pas normal? Et dernière raison, qu'il suit un régime sans sel. Alors, pourquoi pas le poulet, végétarien et régime sans sel? Parce que ça renvoie à des raisons différentes. Le sans sel, c'est une raison médicale. Le poulet, c'est vraiment une préférence individuelle. Et végétarien, c'est plutôt des questions d'éthique ou de morale ou de choses dans le genre. Et vous C'est une échelle. On propose les scénarios aux répondants. Enfin, je peux vous le proposer à vous. Imaginez, vous invitez des amis pour ce week-end et un de vos invités vous dit « Super, ouais, je suis vraiment très très content de venir, mais sache que je ne mange pas de poulet. » Et puis, vous avez une échelle de pas du tout normal à tout à fait normal. Et je vous demande, ben, pour vous, c'est pas du tout normal ou tout à fait normal? Qui vous dit ça? Vous trouvez ça tout à fait normal? Pas normal? En moyenne, donc, et ça c'est... si vous voulez avoir la latitude de manger ce que vous voulez sans froisser personne, allez aux États-Unis. L'Angleterre, c'est encore mieux. Et aux États-Unis, il y a 90% de vos hôtes potentiels qui trouveront absolument normal que vous les préveniez de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Par contre, en France, vous voyez, la tolérance est moindre, et surtout la tolérance varie suivant la raison invoquée. Si vous invoquez en France le régime sans sel, l'allergie, la maladie, on trouvera ça, 90% des personnes trouveront ça aussi tout à fait normal. Vous avez bien fait de le dire. Par contre, que vous prétendiez ne pas aimer le poulet, enfin, que vous acceptez l'invitation, mais vous dites « je ne veux pas manger de poulet », ça passe moins bien chez des Français. Et pourquoi ça passe moins bien? C'est parce que, aussi, le sens qu'on attribue au repas n'est pas similaire. Vous vous souvenez, je vous disais, le mode communiel et autres. Mais ça revient quasiment à aller à l'église, de communier, et de demander « l'hostie, elle est bien sans gluten ?» C'est pas le problème. C'est absolument pas le problème. Le problème, c'est d'être ensemble, de partager un moment ensemble. Vous, en tant qu'amphitryonne, je sais pas si ça se met au féminin, en tant qu'invitante, eh ben vous vous engagez aussi à prendre beaucoup de temps, à préparer à manger, à faire un bon plat. Enfin, vous offrez quelque part aux autres. Et tout ça, c'est perçu comme des formes de réserve par rapport aux cadeaux que vous faites. Alors qu'aux États-Unis, non, le rapport à l'alimentation est beaucoup plus individualisé et donc beaucoup plus distancié. On va pas se froisser à cause de réserves émises. J'ai été trop longue, Nikos, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Estelle. Et de toute manière, on est déjà passé, me semble-t-il, dans le débat, quoi, enfin, dans les questions.
Merci beaucoup, Estelle, pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question, parce que, bon, bien sûr, j'avais déjà lu les travaux, et il y a quand même une question qui me taraude sur la question des alimentations dites particulières. C'est que finalement, une des choses dont on se rend compte, c'est que dans ce foisonnement, ça se focalise, il y a quand même pas tant de régimes différents que ça. Au final, il y a des choses qui ressortent. Ça va être, on a le sans gluten, le sans lactose, on va avoir végétarien, végétalien et vegan, qui ressortent de manière assez importante. Il y a eu quelques petites modes, mais qui passent, comme le paléo ou les choses comme ça. Et au final, on n'a pas de gens qui décident de plus manger de carottes du jour au lendemain ou choses comme ça. Ça reste quand même très limité. Donc finalement, ces choix, est-ce qu'ils sont vraiment individuels ou est-ce que on se rend compte que d'un coup, et à une échelle pas que national, international, on a un groupe de gens assez important qui décident de faire le même choix alimentaire, les mêmes restrictions. Et ces gens, d'ailleurs, souvent se ressemblent sociologiquement. J'ai un petit doute sur le fait de parler d'individualisation ou de particularisme de l'alimentation, parce que, par exemple, si un groupe de gens avait décidé d'arrêter de manger du porc il y a quelques milliers d'années, on considère que c'est un trait culturel, voilà. Et là, on considère que c'est un particularisme. Donc, est-ce que, par rapport à de quand date l'étude, est-ce que vous avez un peu réfléchi à cette question? Est-ce que c'est pas plutôt des phénomènes sociologiques et encore c'est finalement encore un trait culturel plutôt qu'une individualisation?
Exactement, mais c'est la fin de la présentation racontait ça, notamment, sans les diapos, ça ira bien aussi. Ce que je proposais de montrer dans la suite de la présentation, c'est de prendre deux cas extrêmes sur lesquels j'ai travaillé également. D'une part, une population d'anorexique, où là, il y a vraiment c'est le cas pathologique, c'est une maladie, l'anorexie, mais où il y a un rapport à l'alimentation qui est absolument différent et radicalement différent. Sauf que culturellement, là encore, c'est une approche transculturelle des Anglaises et des Françaises. Les Anglais se comportent un peu comme des Américains. Les Anglaises avaient nettement moins de mal à se dire anorexique, à envisager la chose, à le communiquer dans leur famille, que les anorexiques françaises. Et on étudiait ça au niveau des publications qu'elles faisaient aussi sur des blogs, les blogs en ligne qui ont à un moment donné été interdits, puis réautorisés parce que c'était considéré comme... à un moment donné, il y avait un projet de loi qui visait à pénaliser la publication de photos d'extrême minceur, etc. Et comme les anorexiques très souvent sont dans ce cas-là, mais ils tirent encore les photos, elles étaient malades et risquaient de devenir en même temps délinquantes. Donc c'était rajouté sur rajouté. Et donc, on les interrogeait sur ce qu'elles publiaient en ligne, sur pourquoi elles fréquentaient les réseaux sociaux en ligne, pourquoi elles étaient abonnées à des blogs, pourquoi elles tenaient un blog, qu'est-ce qu'il y avait sur leur blog, et tout. Et c'est absolument extraordinaire. C'est là encore, c'est pas une individualisation. C'est tous ces blogs et toute cette ampleur que ça a pris sur Internet. C'est la prévalence de l'anorexie, elle est importante, elle est trop importante, mais elle est quand même relativement basse pour que vous ayez des chances d'avoir, dans la vraie vie, comme on dit, 40 copines anorexiques comme vous. Donc des personnes qui auraient le même vécu, qui auraient le même rapport à l'alimentation, elles se retrouvent donc dans ces blogs, et qu'est-ce qu'elles publient ? Elles publient leur repas vide, en quelque sorte. Elles ont des normes, exactement comme vous disiez, on retrouve les mêmes choses. Il y a des normes qui circulent. Là, 500 calories comme apport journalier. Donc, où il y a tout un système de valeurs. Il y a les répertoires culinaires ou alimentaires. Ils sont mais carrés comme pas possible, avec les aliments au nid et les aliments valorisés. Arrive en tête la salade, les choses dans ce qui est valorisé, et puis tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré de l'autre côté. Et on se rend compte aussi que pour elles, tous ces sites, ces blogs, avec des pratiques très, très étonnantes, où la journée commence pour certaines d'entre elles, aller faire un coucou à un tel qui a sur son blog, à un tel, etc., etc., etc. Et donc c'est vraiment une sorte de sociabilité alimentaire qui est restaurée. Et que, comme s'il y avait toujours ce besoin, même quand on ne mange plus, de partager ce que l'on mange ou de partager ce que l'on ne mange plus. Et oui, je reviendrai après sur l'autre aspect. Mais je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. C'est...
Merci beaucoup pour la présentation et puis la démonstration là, que vous venez de réaliser. Et en fait, en tant qu'élu, on est confronté, et en l'occurrence avec ma délégation alimentation et agriculture, à des débats récurrents qui touchent en particulier les sujets, un peu des sujets de société que vous pouvez voir dans la presse, à n'importe quelle polémique autour du végétarien en particulier. Et là, je me pose la question, en fait, on voit par exemple les différences culturelles plutôt anglo-saxonnes avec cette, entre guillemets, tolérance qu'on peut avoir autour du choix individuel et du coup...
Et de la revendication de son choix individuel.
Et du coup, des propositions qui sont faites en face pour pouvoir répondre à ces différents choix individuels, ce qui est moins le cas alors que probablement on a autant de proportions d'habitants qui potentiellement souhaiteraient suivre des régimes particuliers, mais qu'il n'y a pas d'offre en face, soit dans la restauration commerciale ou même dans la capacité ou la connaissance pour cuisiner ce type de choix. Et ma question, elle est là, c'est, je suis toujours interloqué de d'où vient finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le repas français qui amène le fait de devoir partager le même repas avec les mêmes ingrédients tous ensemble, quelles que soient nos différences. Et c'est important, mais d'où ça vient en fait culturellement, historiquement? Pourquoi à un moment donné il y a eu cette... sur des populations probablement au même, de même catégorie, entre guillemets, qui d'un côté en France et en Europe avec ce côté très social et de l'autre côté États-Unis très individuel. Et est-ce que ça rejoint aussi des dimensions plus politiques au sens où quels sont les choix sociétés politiques qui ont été réalisés par ces populations? Et voilà, c'est, ma question est plutôt là, d'où ça vient et est-ce qu'on est encore sur un récit également, au même titre que des religions ou des pratiques alimentaires liées aux religions, pardon. Voilà, merci. Si vous avez des éclairages là-dessus, ça m'aiderait.
Oui, alors, toujours compliqué de répondre à des questions, d'où ça vient. Déjà, globalement, dans les sociétés traditionnelles, ou du moins dans la majorité des sociétés traditionnelles, la question de la répartition des nourritures est importante. La distribution ou la consommation collective des nourritures permet également de voir ce que mange chacun, même si chacun n'a pas droit à la même part que les autres. Pourquoi ça s'individualise à un moment donné? Vous avez les travaux de Max Weber qui tendent à montrer, Norbert Elias aussi, ce processus d'individualisation qui se marquerait de plus en plus avec l'élèvement du seuil de la sensibilité des... Donc, effectivement, il y a des aspects de ce genre qui jouent, mais qui jouent pour plein d'espaces de notre vie. Parce que, regardez, pareillement, le sommeil a été collectif pendant longtemps. Enfin, c'est révolutionnaire qu'une femme réclame une chambre pour elle, une chambre à soi. Donc, il y a plein d'espaces comme ça de la vie qui étaient collectifs et qui se sont privatisés. Et des choses qui sont de plus en plus intimes. L'exemple de la chambre à coucher, c'est oui. Je ne suis pas certaine que... Parce que ce que vous racontez, vos grands-parents, je pense que c'était plutôt la mise en commun des rares ressources qu'il y avait. C'était juste, ils se rassemblaient, chacun mangeait ce qu'il avait apporté. Oui. Pardonnez-nous. Au revoir. Je prendrai pas mal.
Merci. Peut-être François, si vous voulez aussi intervenir.
Non, non, oui, tout à fait. Mais honnêtement, je sais pas quoi vous répondre par rapport à ça. Oui. Ça, je sais mieux y répondre. Ça relève plus de mon champ de compétences. Oui, dans ce que vous avez dans ces histoires de manger comme les autres, ou de manger autrement que les autres, ce sont tous les processus de différenciation sociale, ou au contraire d'assimilation à un groupe particulier. Quand vous mangez comme les autres, vous vous affiliez à ce groupe particulier. Si vous refusez de manger ce que mangent les autres, vous vous en excluez. Et c'est les formes de végétarisme qu'on constate dans la Grèce antique, avec les sectes, c'était des pythagoriciens, si je me souviens bien, qui refusaient de manger de la viande. Ils étaient végétariens, mais ils étaient végétariens pour une raison très précise, et là c'était un acte politique que d'être végétarien, c'est qu'ils refusaient de participer au banquet et donc à la consommation des viandes tuées de façon rituelle. Donc ils refusaient de prendre part à ce banquet, mais aussi ils refusaient de prendre part au gouvernement de la cité. Ils se soustrayaient de la chose, et c'était une forme d'opposition forte et marquée. Et je pense que les formes de végétarisme, de véganisme, c'est ces mêmes principes. Et s'il y a, et là je suis entièrement d'accord avec toi, c'est, ma foi, ça change pas tant que ça. C'est pas si particulier et si bizarre que ça. Mais ça s'articule autour de valeurs. C'est comme s'il y avait une repolitisation, mais au sens vaste du terme, de l'alimentation. Et où on va défendre des valeurs, des choses qui font sens pour nous, pour s'opposer justement à cette agroalimentaire où il n'y a plus, enfin, cette boîte noire où on ne sait pas d'où ça vient, où il n'y a plus de lien avec la terre, le sol, etc. Et où on va, oui, s'emparer, enfin, prendre l'alimentation comme moyen d'exprimer, eh ben, une volonté de sens et une affirmation de ses positions politiques, éthiques, idéologiques. Mais je suis entièrement d'accord. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Mais néanmoins, la prégnance qu'elles ont en ce moment correspond. Enfin, les véganes, on pourrait quasiment en psychologie les comparer à des minorités actives. Avec des minorités actives, donc des minorités qui, au travers de leur discours toujours consensuel, dur et qui ne change jamais, constant, qui reste et où ils répètent à chaque fois la même chose, eh ben c'est la majorité qui n'est absolument pas concernée par cette minorité, eh ben elle est obligée de réagir ou de s'adapter ou de faire quelque chose de cette minorité qui est là, et on ne va pas devenir vegan aussi. Mais ma foi, c'est vrai, peut-être que manger de la viande tous les jours, c'est même pas nécessairement très bon, et maltraiter les animaux, c'est peut-être pas une très très bonne idée. etc., etc. Et toutes ces idées, mais qui étaient présentes à l'esprit de personnes, de peu de monde, il y a 30 ans, elles nous obsèdent aujourd'hui. Quand vous attrapez un poulet dans un rayon de supermarché, vous êtes là, oh qu'est-ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a... Quand vous attrapez des légumes quelque part, mais qu'est-ce que ça, comment ça a transformé la terre, enfin, est-ce que ça a tué tous les vers de terre qu'il y avait dans la terre, ou au contraire, vous allez choisir d'autres produits issus d'autres formes d'agriculture en vous disant que c'est votre contribution aussi à construire et votre possibilité de construire un mode, un monde différent, un mode qui aurait plus de sens pour vous. Oui.
Alors, moi, je suis là en tant que qu'animateur d'une association qui s'appelle Santé Goût Terroir et qui a été créée pour établir un lien entre sa propre santé physique et morale et l'origine de son alimentation. C'est-à-dire que, à travers la dégustation de produits dits de qualité, alors on est aussi là pour définir ce qu'est un produit de qualité. Au sens de Carlo Petrini, ça peut être un produit qui est bon, propre et juste, hein, bon à manger, propre parce que bon, il n'a pas trop pollué la terre dans laquelle il s'est développé, et puis juste parce que la rémunération du producteur est plutôt à la mesure de son travail. Et donc, cette association, à travers des conférences dégustation, des repas intergénérationnels, des animations sur les marchés, notamment, et des cours sur le goût, a tenté de faire connaître à travers la dégustation d'un produit, à travers les sensations qu'on ressent lorsqu'on déguste quelque chose, l'univers dans lequel le produit a poussé, si c'est un légume, a été élevé, si c'est un animal, a été transformé, si c'est un fromage, par exemple. Par rapport à ça, on a constaté que les dégustations qu'on organisait étaient assez révélatrices de, du fait que, si vous voulez, en fait, pour revenir à l'origine de la création de cette association, je me suis dit à un moment donné, moi qui suis issu un peu du milieu associatif lié à l'éducation à l'environnement, comment faire pour finalement rassembler des gens de sensibilités très différentes au niveau politique, au niveau social, au niveau des idées de tout un chacun, autour de notamment la défense de l'environnement et du lien intrinsèque qu'il peut y avoir entre notre santé et la qualité de notre environnement. Alors, bon, des conférences sur l'environnement n'attirent souvent que des gens conquis à ces idées-là, des actions militantes aussi, des manifestations. Alors, l'approche sensible autour de l'alimentation a été pour moi un biais génial pour justement réunir des gens de sensibilités très différentes autour de la dégustation, par exemple, de produits qu'on connaît autour de Lyon et qui permettent aux gens aussi de s'identifier. Par exemple, le cresson de Saint-Symphorien d'Ozon, le fameux cardon de Vent-en-Velin. Alors, les Parisiens connaissent un peu moins le cardon, mais c'est une denrée, un plat qui est cuisiné à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans la région lyonnaise, mais aussi dans les Deux-Savoies. Donc, c'est un légume qui fait partie de la famille des artichauts et donc du chardon, dont on consomme les côtes. À Malavre. bravo. Mais c'est vrai que moi, étant de la région parisienne, je ne connaissais pas le chardon en arrivant ici. Autour d'autres produits très, très emblématiques qui nous ont permis justement de créer un univers à la fois sensoriel mais aussi géographique pour pouvoir attirer les gens autour de cette dégustation-là et nous-mêmes ensuite faire passer des messages à la fois liés à la santé et liés à l'environnement dans lequel justement ces produits sont cultivés, par exemple, en ce qui concerne les légumes. Donc ça marchait plutôt bien puisque l'entrée est gastronomique. Et donc l'entrée étant gastronomique, on associe des valeurs qui sont à la fois de plaisir, de convivialité, de rencontre, d'échange. C'est exactement ce que vous disiez par rapport à cette entrée qui plaît finalement à tout le monde, en tout cas dans notre culture bien française, qui est celle de nous retrouver autour du partage de quelque chose de plutôt réjouissant au niveau gustatif. Donc ces animations-là nous ont permis justement de réunir des identités très différentes de personnes pour justement débattre, parler, échanger sur le lien qui peut exister entre notre santé et l'environnement. Et puis après c'est vrai que les ateliers culinaires qu'on a pu organiser en classe de 5e, dont le cursus, une partie du cursus porte sur l'approche de la durabilité, du développement durable, ont permis justement de voir que les ados qui assistaient à ces ateliers-là, eh bien, apprenaient davantage à connaître l'autre en dégustant des produits. En préparant un plat à chacun et en le faisant déguster à d'autres, par exemple, on faisait préparer des purées de betterave mélangées à de la fraise, et puis c'était libre au cours à eux de sucrer davantage ou pas, et de le faire partager aux autres. Et on se rendait compte que finalement les goûts des uns n'étaient pas le goût des autres, puisque certains avaient cuisiné ça de manière à ce que ça leur plaise à eux, et les autres trouvaient ça ou trop sucré ou pas assez. Donc ça permettait effectivement de pouvoir se rendre compte que eh bien, les goûts des autres n'étaient pas les siens, et ça permettait aussi de les respecter. Ça permettait aussi, à travers justement la dégustation de produits emblématiques de Lyon, alors j'ai parlé du cardon, mais j'aurais pu parler aussi du poireau bleu de Solèze, eh bien, d'apprendre aussi à la fois à découvrir ses propres goûts, mais aussi à aller explorer son territoire. Parce que découvrir le poireau bleu de Solèze, qui est un poireau relativement goûteux, cuisiné d'une certaine manière, eh bien, permet aussi de redécouvrir soi-même ses propres goûts, parce qu'on a peu l'occasion de déguster un poireau aussi goûteux. Et puis ensuite d'aller explorer dans un jardin qui produit ce poireau l'origine de ce produit et donc de notre alimentation. Donc toutes les animations qu'on a pu organiser ont pu justement révéler le fait que se réunir autour de la gastronomie, de la dégustation d'un produit qu'on va apprendre à connaître, eh bien permet à la fois de mieux se connaître, permet aussi à la fois de mieux connaître l'autre, mais aussi de mieux connaître son environnement, apprendre à l'explorer. Et puis, le quatrième volet, c'est dans les différents objectifs que se sont fixés, que s'est fixée l'association, c'était de savoir quelle est ma place finalement dans cet environnement. Comment je peux prendre cette place dans cet environnement culinaire ? Et bien, c'était pouvoir justement permettre aux personnes, par exemple aux élèves de cette classe de 5e, d'apprendre à être relativement autonome dans le choix de son alimentation. Au niveau du choix d'un légume, apprendre à la fois à le choisir, à le conserver et à le cuisiner. Il suffisait pas d'acheter un superbe poireau de Solèze. Alors c'est un poireau, je sais pas si vous connaissez, mais avec des feuilles un peu bleu-violacées, qui pousse en hiver et qui est considéré comme un poireau gastronomique par les grands chefs. Donc il suffisait pas d'acheter ce superbe poireau pour ensuite le laisser 15 jours dans sa cuisine à 22 degrés et puis ensuite le faire bouillir dans de l'eau. Bon, là on perd carrément à la fois le goût et les valeurs nutritionnelles. Et donc cet apprentissage de cette chaîne qui va finalement de l'origine choisir son légume, c'est-à-dire avoir en tête des critères de fraîcheur, de saisonnalité, de variété et puis aussi d'aspect. Ensuite, savoir comment le conserver et savoir comment le cuisiner de manière très simple, de manière à ce qu'il exprime à la fois son goût et ses valeurs nutritionnelles, permettait justement de davantage s'approprier le produit et puis aussi d'apprendre à peut-être mieux respecter son environnement social, mais aussi géographique.
Mais c'est une très jolie expérience que vous faites. C'est extrêmement intéressant parce qu'en même temps, vous contribuez à permettre aux individus de retrouver du sens à l'alimentation. Enfin, c'est tout à fait l'inverse de ce monde alimentaire qu'on perçoit comme déshumanisé, industrialisé et autres, mais où le produit vient bien de quelque part, d'un terroir, en fait, et en allant remettre en emmenant voir vos consommateurs les racines du poireau, du... Comment il s'appelle là? Le cardon.
De veau en venin.
De veau en venin, d'accord. Et ben, en même temps, vous ancrez vos consommateurs dans un terroir. Et ça, c'est justement ces choses-là qui contribuent à nourrir des identités culturelles, des identités territoriales, des collectivités de mangeurs. Hein.
Oui, exactement. C'est alors, ça pourrait paraître réducteur, hein, travailler sur un légume un peu emblématique que personne connaît. Non, parce que il y a 50 ans, tout le monde connaissait ces légumes. Aujourd'hui, on les connaît un peu moins. Mais n'empêche que c'est une entrée. C'est une entrée qui permet, par l'expérience justement du produit, eh bien, d'avoir envie et éventuellement d'aller en explorer d'autres. Et ça marche plutôt bien. Parce que quand on avait fait on avait organisé un atelier sur la betterave et la carotte à l'occasion des rencontres Vénichef, c'était un peu top chef de trois lycées professionnels à Vénissieux et qui était un grand concours culinaire permettait justement à des équipes d'élèves de concourir autour de différents plats exécutés en l'espace d'un après-midi. Et nous, on tenait un atelier qui permettait de savoir comment pousse la betterave et la carotte, comment la conserve, et puis ensuite comment la transforme, de manière à ce qu'on puisse se faire plaisir tout en cuisinant rapidement. Et l'année suivante, on est revenu. Et les élèves qui nous avaient rencontrés l'année précédente sont revenus justement en nous disant alors quels légumes on va découvrir aujourd'hui. Moi, pendant ce temps-là, j'en ai découvert d'autres. Et c'est vrai que c'est un peu une manière finalement de passer à quelque chose qu'on ignorait, c'est-à-dire que l'aliment peut être un biais extraordinaire pour à la fois apprendre à se connaître et apprendre à s'ancrer aussi dans son territoire. En tout cas, c'est ce qu'on a pu vivre dans ces différents ateliers.
C'est assez remarquable. Et en plus, avec ça renvoie à l'environnement, la nécessité d'un environnement qui soit fertile, qui permette d'élever les histoires de conservation, c'est la lutte contre le gaspillage qui est un des grands enjeux aussi pour le moment. Et si vous avez cette forme de respect des ingrédients, du poireau, de la carotte, vous n'allez pas la laisser moisir au fond de votre frigo. Et c'est très joli, vos expériences et démarches.
Je me permets de demander s'il y a des questions éventuellement qu'on n'a pas traitées, parce que je sais que cette salle est très belle, cet endroit est magnifique, mais il leur faut quelques minutes quand même pour fermer, etc. Donc, si on arrive à terminer, s'il n'y a pas de questions, on peut terminer. Mais s'il y a une question, on peut encore discuter de 3 minutes, quoi. Hélène, vous avez une question, c'est ça? Est-ce que vous avez le droit d'en avoir?
Ce que tu veux dire par là, c'est par rapport aux représentations qu'on peut avoir, par exemple, de la notion de terroir. C'est ça, par exemple. On l'a fait exprès, en fait. On l'a fait exprès, justement. Le but, parce que moi, c'est un mot que j'aimais. Je l'ai pas mal étudié en géographie, et je trouvais que. Je trouvais que c'était bien plus terroir. C'est un mot typiquement français. J'ai un frère qui est viticulteur et qui avait, il y a une quinzaine d'années, parcouru les pays du Nouveau Monde pour interroger justement les viticulteurs sur cette notion de terroir. À la fois au Chili, en Afrique du Sud, en Californie, là où on produit du vin, des vins de qualité. Et en fait, on constate que ces gens-là nous jalousaient cette notion de terroir. Cette association à la fois d'un climat, d'un sol et d'un savoir-faire pour pouvoir parler d'un produit et surtout à travers le récit compléter cette expérience gustative. Le terroir est un début de récit, l'expérience gustative est la suite du récit. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette notion de terroir, qui peut paraître clivante pour certaines personnes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire de temps en temps, mais je constate que on n'a jamais eu de questions par rapport à ça, par rapport à la notion de terroir, par rapport à notre manière de faire, par rapport au fait de dire... Voilà ce qui est important, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître l'autre, et puis aussi à explorer son territoire pour justement se réapproprier à la fois sa communauté, mais aussi son quartier, son territoire, pour pouvoir agir pour les autres et aussi pour soi. Là encore, j'ai toujours eu le sentiment, en tout cas c'est ce que je disais au début, en choisissant l'approche culinaire, qu'on était plus sur une mouvance apolitique. C'était peut-être l'objet de ta question, Hélène, non? En tout cas, à travers les retours qu'on a pu avoir et à travers le discours qu'on a pu choisir, j'ai souvent eu le sentiment que, on pouvait difficilement nous dire « Ah, vous êtes plus de telle ou telle tendance politique ou tel régime politique ». Est-ce que je réponds à ta question, Hélène, ou d'accord.
Oui, effectivement, il y a de nombreux travaux, notamment en histoire, sur des régimes politiques plus anciens, sur des liens plus récents. Ce qui me vient à la tête, à l'esprit, c'est un ouvrage qui avait été réalisé sur les régimes alimentaires des dictateurs. Il y a Bokassa, il y a Mao Tse-tung, il y a Staline, etc. Où justement, suivant la conception politique, mais c'est pas très scientifique comme travail. Je ne le recommande pas nécessairement. c'est plus anecdotique que scientifique. Non, mais sur les volontés politiques, les conceptions de des sociétés et de la société qu'un régime politique veut établir et les conséquences sur les modes d'alimentation préconisés pour les individus, oui, effectivement, là, il y a beaucoup de choses. Et que ce soit sur les kibbutz ou que ce soit sur les kolkhozes, les sovkhozes, dès qu'il y a eu un projet de société qui se construisait, qui n'était pas de la transformation douce des choses, mais l'alimentation est chaque fois rentrée était un élément crucial. Et quand on regarde, par exemple, Rabelais, quand il imagine son abbaye de... C'est quoi, Télèbe, sans doute ? Rabelais. Télèbe, ouais, dans l'abbaye de Télèbe. Et il y a aussi tout un chapitre sur comment on mange, quand on mange, qu'est-ce qu'on mange. Et à chaque fois, enfin, c'est au cœur de chaque projet politique de définir ce que les gens vont manger et comment ils vont le manger.
Estelle, un grand merci. Je crains qu'il faille s'arrêter là, du coup. Un grand merci à tout le monde d'avoir pu assister, être présent à ce premier amuse-bouche de la chaire Tralim. Donc, Hélène, merci beaucoup pour votre travail sur l'organisation de tout cela. Mémorable et remarquable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.